Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Aujourd'hui, mon invité est Chloé Corman, romancière, essayiste qui vient de publier au Seuil un texte aussi court qu'intense sur l'antisémitisme en France aujourd'hui. Comment il s'exprime, comment il se développe et aussi comment il est instrumentalisé. Texte à la première personne qui a pour titre « Tu ressembles à une juive ».
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Chloé Corman.
Bonjour Toufik Hakem.
Tu ressembles à une juive. Avant d'expliquer le titre de votre ouvrage, cette phrase et une autre phrase d'ailleurs que vous avez entendue, que vous ont aidé justement à réfléchir autour de votre identité, de cette partie de votre identité, je voudrais lire un extrait de votre texte. Vous dites « Aimer ou ne pas aimer les juifs est devenu, redevenu, un positionnement stratégique au sein de la société française. C'est une ligne brisée qui la parcourt à nouveau en tout sens et sert à séparer les riches des pauvres, les élites des laissés pour compte, les blancs des non-blancs et dont l'instrumentalisation se fait toujours aux dépens des juifs mais aussi de toutes les minorités qui se distinguent de la norme blanche catholique à laquelle l'extrême droite cherche à résumer cette société. » C'est intimement lié. L'antisémitisme
et la montée de l'extrême droite.
Et les autres formes de racisme. D'ailleurs, ce que vous dites dans ce livre, Chloé Corman, c'est qu'il faut cesser de différencier ce racisme-là, c'est-à-dire l'antisémitisme, des autres formes de racisme.
Oui, j'étais frappée d'ailleurs que vous présentiez le livre comme un livre sur l'antisémitisme. Je pense qu'il y a une thèse dans ce livre qui est l'antisémitisme et le racisme en France. Et une stratégie que je juge perverse de séparation entre les deux formes de haine xénophobe. Alors non pas que je conteste une différence historique, etc. Mais je pense qu'il y a une façon de monter en épingle une sorte de différence structurelle entre ces haines qui est extrêmement dangereuse et qui sert des intérêts politiques d'extrême droite.
Alors, s'il fallait parler de l'origine de ce texte, Chloé Corman, tu ressembles à une juive, on le verra un peu plus tard, c'est ce que vous disait votre grand-mère qui, elle, a été obligée à un moment de sa vie de se cacher. Donc, c'est une phrase qui est tout sauf banale. Une autre phrase va pourtant être très importante pour vous, pour écrire ce texte, qui a déclenché peut-être chez vous l'envie d'écrire ce texte. C'est ce que vous entendez de la part d'une camarade, d'une compatriote à New York, qui ne voyait pas bien d'un bon œil que vous quittiez une cérémonie religieuse dans une synagogue parce que dans cette synagogue, les femmes étaient tenues à rester derrière les hommes.
Oui, mais alors ça, c'est un vieux souvenir qui date maintenant il y a plus de 10 ans, une jeune femme qui m'a balancé à la figure « Bon, bah si tu viens pas à l'office de Pâques, de la Pâque juive, Pessah, tu n'es pas vraiment juive. » Donc le texte aussi, entre ce « tu n'es pas vraiment juive » et « tu ressembles à une juive », c'est-à-dire « tu n'as pas intérêt à ressembler à une juive ». Donc toutes ces espèces d'assignations à être, ne pas être, à être exclu. Cette phrase que j'ai reçue de cette jeune femme « tu n'es pas juive », c'est un souvenir qui est remonté, hein, comme la phrase de ma grand-mère l'an dernier. Il faut dire que le point de départ de ce texte, ce sont pas ces phrases que j'avais entendues il y a fort longtemps et que je m'étais empressée d'oublier en fait, mais un contexte en France. En fait, le point de départ très précis de ce texte, c'est un article que j'ai publié en mars dernier dans un journal en ligne qui s'appelle AOC, parce que j'étais suffoquée par une certaine ambiance en France. Donc c'était juste après, vous vous souvenez, Toufik Hakem, en février, il y a eu une vague de faits antisémites, de faits symboliques, de faits d'expression antisémite très violents. Il y a eu les cimetières profanés à Katzenheim et Herrlisheim en Alsace, qui sont les cimetières où sont enterrés des ancêtres dans ma famille. Il y a eu le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée, l'arbre en hommage à Ilan Halimi qui a été scié. Enfin, tout un tas d'expressions, de manifestations antisémites. Et voilà, moi, ce qui m'a en fait fait sortir de ma réserve, de mon calme habituel, c'est le moment, la réponse en fait du gouvernement, qui a été de proposer parce que il y a eu ce moment où aussi le philosophe Alain Finkielkraut s'est fait traiter de sale sioniste dans la rue avec des menaces de mort. C'était un moment extrêmement violent aussi. Mais la réponse du gouvernement a été de dire, eh ben puisque c'est comme ça, on propose que l'insulte sioniste soit interdite, que ce soit déclaré l'équivalent d'une insulte antisémite et qu'on puisse plus dans l'espace public traiter quelqu'un de sioniste. Et ça a été terrible parce que j'ai compris que en fait l'assignation identitaire entre juifs et État d'Israël était en train d'être non seulement nourrie par les antisémites, mais aussi par ceux qui prétendent prendre la défense de la communauté juive. Et voilà, donc il y avait une espèce de confusion dans l'espace public qui m'a énormément gênée.
Et donc c'est à partir de là que vous avez décidé d'écrire un texte. Mais comment vous l'avez conçu, Chloé Korman, ce texte? Parce que c'est un texte introspectif, il ne parle que de vous, de votre parcours, de votre famille, de votre culture. Et de vos engagements politiques, on va y venir aussi.
Oui, c'est un cheminement assez inédit pour moi qui jusqu'à présent ai publié des romans. Et choisi le chemin de la fiction, c'est-à-dire d'une forme d'anonymat identitaire. Alors une fiction qui parle d'exil, de persécution, de multiples formes de racisme, mais où je ne me mets pas en avant. Et alors là, au contraire, pour réfléchir à ce sujet, j'ai pensé qu'il fallait pas que je parle. Je suis pas politologue, j'étais pas là pour faire de la théorie, mais que si je voulais vraiment avoir un discours juste, concret, il fallait que je sois le plus proche possible de mon expérience familiale et aussi de mon expérience d'enseignante en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire auprès de populations qui subissent une ségrégation raciale dans l'espace urbain français contemporain. Et je voulais partir de ça et aussi d'une éducation où vraiment l'héritage de l'antisémitisme a conduit mes parents à être des militants antiracistes, à m'enseigner que les humiliations qu'on subit du fait de son identité, de ses origines, sont parmi les plus néfastes qui peuvent donner le plus de violence en retour. Et c'est de ça que je voulais parler.
Et vous dites le fait de séparer les victimes du racisme, de constituer les logiques racistes et antisémites comme différentes et d'alimenter la haine entre les minorités qui en sont victimes est un dispositif aussi redoutable que grossier. Chloé Korman.
Oui, en ce moment, il y a une division très regrettable dans le champ du militantisme, dans le champ médiatique, entre ceux qui luttent contre le racisme et ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Il y a des espèces de confusions regrettables avec des personnes racistes dans les rangs de ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Il y a des personnes antisémites dans les rangs des antiracistes. Et tout ça augmente la xénophobie ambiante. Et je parle de dispositif parce que il y a en place des médias... je parle par exemple du cas de Causeur, qui va être par exemple en première ligne pour dénoncer des faits antisémites, alors que le capital de ce journal est détenu par une personne qui était auparavant détenteur du capital de Minute. Donc je parle aussi de loups en habit de grand-mère. Quoi. On est là face à des défenseurs complètement...
On ne dénonce l'antisémitisme que pour mieux stigmatiser les Noirs et les Arabes, pour aller très vite.
Bien sûr. Et ça, c'est vraiment une stratégie effrayante et extrêmement néfaste. Vraiment, l'accent qui est mis sur l'antisémitisme dans la communauté musulmane et arabe, qui est un antisémitisme réel, héritier des confrontations, enfin du face-à-face en Afrique du Nord, qui existe. Mais le fait qu'en France, on mette perversement l'accent sur cet antisémitisme-là, alors que des formes très anciennes, très bien installées de l'antisémitisme dans des milieux, disons, blancs, bourgeois, sont encore tout à fait pérennes, tout à fait existantes. Bon, je ne sais pas, prenons en septembre dernier l'affaire Moix, on a vu qu'un écrivain tout à fait installé s'était exprimé d'une façon antisémite, mais d'une violence extrême. Bon, enfin, vraiment, toujours mettre l'accent sur l'antisémitisme.
Il a fait son mea culpa, mais vous acceptez pas ce mea culpa, Chloé Corman,
parce que... Je dis que c'est une démonstration de force.
Oui,
qu'aller s'installer sur un plateau télé, c'est une démonstration de force. Et pour revenir sur ce qu'on disait sur l'antisémitisme musulman ou arabe, qui est constamment pointé du doigt, ça m'étonnerait que un écrivain musulman ou arabe auquel on aurait trouvé ce genre de passé aurait pu faire son mea culpa dans les mêmes conditions.
Ce qui vous amène à écrire cette phrase très intéressante dans votre livre « Tu ressembles à une juive », Chloé Corman, la phrase de François Fanon, « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous », ça on connaît cette phrase, mais vous vous dites « Cette phrase doit être réversible. Toute entreprise raciste mettant en place des dispositifs restrictifs pour la définition d'un peuple, d'une nation, est menaçante pour les juifs qui seront toujours en peine de prouver une appartenance sans mélange dans cette unité. »
Oui, je pense que ça fait partie de d'une sorte de malentendu, entretenu par les racistes, de faire croire qu'il y a des hiérarchies, des préférences. En l'occurrence, je fais référence aussi à ce qui est arrivé dans ma famille. Entre 40 et 44, des juifs alsaciens français depuis des générations ou des juifs étrangers qui venaient de débarquer. On a commencé par s'attaquer aux juifs étrangers et on n'a pas tardé à s'attaquer aux autres. Et je pense vraiment que l'identité juive dans son mélange, également dans son athéisme en fait, parce que je pense qu'il y a une identité juive athée qui a tout à fait droit de cité et qu'on cherche à mettre de côté justement pour renforcer une image publique du judaïsme qui est religieux, qui est lié à l'État d'Israël, etc. Une identité mélangée et à la fois celle qui gêne le plus et celle qui devrait avoir plus droit de cité parce que c'est elle qui permet d'entretenir un climat de tolérance dans la société.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Juif. Arabe. Juif. Arabe. Arabe. Juif. Juif. Arabe. Ensemble. Ensemble.
D'écouter Philippe Catherine qui chantait juif.
Ils sont bien de nous.
Oui, non, mais c'est une chanson d'époque, j'allais dire, ou un rêve pieux, ou je sais pas comment vous.
Il
vous
aurait
le prenez.
Pu mettre d'autres termes dans la chanson. Je pense que c'est une belle façon de se foutre des discours de vivre ensemble qui sont, quand ils sont des vieux vœux pieux et qui sont pas accompagnés de ce qu'il faut pour le faire, c'est-à-dire, juif, arabe, ensemble. Évidemment, si on ne dit pas la vérité, si on ne décline pas de façon nuancée, contradictoire, la réalité sociale, on le fera jamais. Ce qu'il faut, c'est être capable de dire ce dont on parlait juste avant. Par exemple, des stratégies politiques de stigmatisation des populations arabes et musulmanes en disant qu'elles sont les seules antisémites sur la place publique. Il faut savoir dire que l'antisémitisme en France, il représente aujourd'hui la moitié des actes violents de racisme, statistiquement. Il faut savoir prendre fait et acte de l'antisémitisme dans une partie de la population arabe et musulmane. Je pense qu'il faut être capable d'énoncer les choses, sinon... Sinon, c'est évidemment impossible de faire, de se prendre la main comme ça, dans les nuages.
Et ça, vous le dites très bien dans ce texte, Chloé Corman, parce que ça, ça c'est le côté essai de votre livre, mais il y a aussi votre vécu, il y a aussi vos expériences, et puis il y a ce moment assez troublant, parce que c'est une confession lourde de sens. Vous êtes professeur, vous l'avez dit, vous avez enseigné dans les quartiers défavorisés ou dans le département le plus pauvre de France, on n'arrête pas de dire ça à chaque fois qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, mais toujours est-il que vous dites qu'à certains moments, à mes élèves, où il n'y a pas de mixité sociale et il n'y a pas de mixité culturelle, à mes élèves, j'avais du mal à dire que j'étais juive. Pourquoi ?
Alors, pas de mixité culturelle, c'est un point sur lequel je reviendrai. Je pense pas qu'on puisse énoncer les choses comme ça. J'ai du mal à énoncer le fait que je suis juive. Oui, c'est-à-dire je constate que si on travaille sur J'accuse de Zola, si on travaille sur un texte de Kafka, si on travaille sur d'autres écrivains juifs, je vais pas dire à un moment que je viens d'une famille juive, que je suis juive. J'ai une appréhension, mais c'est plutôt moi qui ai honte de le dire. Ça prend acte de préjugés très puissants. De fait, je n'ai eu affaire à un moment d'antisémitisme en classe qu'une seule fois. C'est une élève tout d'un coup. Je crois qu'on a parlé de l'affaire de Zola, qu'on parlait de Dreyfus. Tout d'un coup, j'ai entendu moi j'aime pas les juifs. Ça c'était terrible parce que en plus c'était une de mes élèves, une élève que j'adore, qui venait de faire une espèce de comme ça de... Bon. Alors
qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
alors,
quand on est prof
je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai arrêté le cours, j'ai dit à tout le monde que c'était insupportable. J'ai dit que l'élève venait d'avoir des propos racistes. Et je tiens au mot. Hein. C'est-à-dire que tous pouvaient s'identifier à ce qui venait de se passer en tant qu'acte raciste. Ensuite, j'ai noté les propos sur un papier, je l'ai envoyé chez la CPE. Et ensuite est venu le moment le plus délicat, mais qui a été un grand soulagement. J'ai appelé la mère de l'élève. Je me suis dit... Et là, en fait, je suis tombée sur une femme qui était absolument consternée par les propos de sa fille. Donc, ça s'est assez vite réglé. Mmh. Donc, c'est évidemment des discours de provocation. Il faut être capable d'ancrer ça dans l'adolescence. Il faut donc être capable aussi de contredire, d'appeler le regard public de la classe. Et de déjouer ainsi ces préjugés. C'est des provocations. Au fond, c'est des provocations d'ailleurs qui sont pas situées seulement en banlieue. Hein. Je parle aussi dans mon livre de la provocation de certains milieux de la haute bourgeoisie, de certains milieux littéraires où l'antisémitisme est un dandysme. Ça m'est aussi arrivé cette année même d'être assis à une table tout à fait choisie du milieu littéraire et d'entendre des propos qui étaient poliment antisémites pour ce que ça donne un peu des petits frissons de montrer qu'on n'a pas peur des provocations. C'est un dandysme, c'est-à-dire c'est une façon, vraiment c'est une posture intellectuelle qui consiste à montrer que ceux qui empêchent ce genre d'expression ont des mentalités petit bourgeoises, des mentalités qui ne sont pas des mentalités d'artistes.
Paris-Belleville. C'est là que les fantômes de l'antisémitisme viennent me chercher en 2017. Ils ne portent pas les insignes de la Gestapo, ils ne me crachent pas à la figure et ne tabassent personne en pleine rue. Mais ils sont dans l'ombre de ces immeubles. Ils inspirent un climat de peur et de doute qui ne m'avait pas effleuré auparavant dans ce quartier que je connais si bien. Belleville, avec ton nom un peu bené, ton image d'épinal, de mosaïque, des communautés, je te regarde dans un rayon de soleil tout en mâchant mon sandwich fricassé. Sandwich tunisien, léger, fait de pâtes à beignets, œufs durs, olives, thon, le tout frit, posé sur une assiette en porcelaine chinoise, avec un ch'tou de harissa, comme de la confiture, dixit le cuisinier. On est où ? On est à Belleville, on est aussi dans ce quartier que vous connaissez bien, Chloé Corman. Quand vous commencez à parler de Belleville, vous nous introduisez à un fait divers, un des derniers faits divers de l'antisémitisme qui fait la une des journaux, c'est-à-dire le meurtre de Sarah Halimi.
Je le raconte comme je l'ai vécu, c'est-à-dire aussi avant son existence médiatique. Je raconte que dans ce quartier, donc que je décris un peu dans son côté enjoué de représentation multiculturelle, qui est larvé là aussi un climat de tension. Et ça, avant qu'on parle de l'affaire Sarah Halimi, je suis témoin de ce crime parce que chez une amie, elle habite en face de l'immeuble dont Sarah Halimi est défenestrée. Et en fait, on fait partie des gens qui, on connaît rapidement les circonstances du crime, le fait que l'assassin a eu des propos qui en appelaient à la religion, hein, donc qui en appelaient à un substrat de conflit religieux avec cette femme. Donc on comprend que il y a une tension, qu'il y a une cause antisémite dans ce geste.
Oui, vous détaillez très très bien. Hein. C'est-à-dire que même si son assassin était atteint de démence, ce qu'il dit va attester d'un substrat de antisémite.
Absolument. Et ce que je décris aussi, et je pense que c'est important, je dis que donc on reste avec ce crime qui n'est pas encore médiatisé, et la façade de l'immeuble de Sarah Halimi qui est ensanglantée. Et ce détail, pour moi, il est important. Parce que ça montre que c'est un immeuble pauvre, c'est un immeuble dont on s'occupe pas. Je pense que dans certains quartiers bourgeois, ce serait pas resté comme ça pendant aussi longtemps. Ça reste des semaines. Hein. Et pourquoi je raconte ça? Parce que je pense que on est dans un milieu de pauvreté, de ressentiment. On est typiquement dans un monde où les haines racistes et antisémites vont s'exprimer parce que il y a des vulnérabilités extrêmes qui entretiennent des climats de haine. Et c'est important de le rappeler quand on se penche sur cette affaire Sarah Halimi.
Mais surtout, vous faites appel à la littérature dans ce texte, Chloé Corman. Et concernant l'affaire Sarah Halimi, eh ben vous convoquez bien sûr Madame Rosa, vous convoquez Romain Gary, La vie devant soi, quand vous nous faites écouter juste le texte.
La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est toujours ce qu'on fait quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre et j'en ai pleuré toute une nuit. C'était mon premier grand chagrin.
Voilà, c'est un extrait de La vie devant soi, la version audiolib chez Gallimard, avec Bernadette Lafont dans le rôle de Madame Rosa. Et là, on vient d'écouter dans le rôle de Momo, Kamel Belrazi. La littérature, pour nous éclairer, pour nous aider, c'est pour ça qu'à un certain moment, Chloé Corman vous énervez en disant qu'on n'a pas donné toutes ces clés, c'est-à-dire la culture, la littérature, à tous les enfants de la République et surtout pas à ceux qui sont parqués dans des cités dortoirs.
Oui, c'est les mêmes qui n'ont pas d'ascenseur dans leur immeuble. Hein. Ouais. On entend là que Madame Rosa aurait mérité un ascenseur et on sait que c'est devenu un emblème des quartiers, le problème de transport, de pouvoir aller vers la grande ville, vers les loisirs, vers la culture, et de pouvoir ne serait-ce que monter et descendre dans son propre immeuble. C'est oui, la littérature, moi c'est ce que j'essaye d'apporter aussi avec les ateliers d'écriture, avec l'enseignement de la littérature. C'est ce qui manque et en même temps c'est ce qui est hautement possible, je pense, dans ces quartiers. Tout à l'heure vous disiez l'absence de diversité culturelle et
vous ça m'a pas d'accord, Chloé Corman.
Ça m'a frappé quand on pense aux clichés concernant la banlieue, par exemple, y voir des espèces de rebuts de suites de la France coloniale, c'est une image complètement fausse. Aujourd'hui, les quartiers, c'est le monde. J'ai des élèves qui viennent d'Inde, du Sri Lanka, qui parlent aussi bien anglais que français. Que fait-on de la France antillaise qui est présente aussi dans les quartiers? Enfin, voilà. Et ça, en tant que accès à la littérature, ça devrait être un moyen d'intelligence en fait, avec la littérature, avec la façon dont la littérature fait résonner l'étrangeté de la langue, l'étrangeté de nos usages sociaux. Seulement, on est aussi dans des quartiers où on trouve pas d'orthophonistes, où les classes sont surchargées, où le rapport au langage, l'accès aux livres est extrêmement pauvre. Je pense qu'il faut faire très attention au fait que le langage ne soit pas perçu comme un privilège de classe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de casser, d'empêcher dans ma pratique de prof et d'écrivain.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et le livre de mon invité ce matin, Chloé Corman, « Tu ressembles à une juive » est en librairie depuis quelques jours, c'est édité au Seuil. Merci beaucoup Chloé Corman d'être passée ce matin.
Merci à vous Toufik Hakem.